Bien, bonjour à tous. Et bienvenue pour cette deuxième table ronde de la matinée. Je voudrais commencer par... Alors vous avez donc le titre de la table ronde ainsi que les noms des collègues qui vont intervenir. Hervé Niosser qui est immédiatement ici à ma droite, directeur central du PLEG. Éric Busseau, directeur scientifique d'Airbus. Et François Gauvers, directeur de l'école doctorale. Sciences, ingénierie et technologie de l'université de Louvain-Leuven en Belgique, Louvain-Leuve, et donc l'université catholique de Louvain, pardon. Ça
oui, de Leuven, mais bon.
Leuven.
C'est compliqué.
Non, mais c'est bien comme ça qu'il faut le faire.
Il faut être patient.
Je voudrais commencer en disant quelques mots sur saluer ce colloque et remercier, féliciter les organisateurs. Le ministère, la MRT, et puis les chevilles ouvrières, vous voyez ici, elles sont là, Patrick Frédançon qui a été extrêmement actif dans l'organisation de ce colloque. Je dirais un peu comme Pierre Polzaglio hier soir que j'ai vraiment l'impression qu'un colloque comme celui-là n'aurait pas pu se tenir de cette façon-là il y a encore quelques années, 10 ans, quelque chose comme ça. D'abord, nous n'aurions pas eu probablement autant d'intervenants industriels, de qualité, venant témoigner, pas seulement du fait que tout va bien, parce que tout ne va pas toujours bien, mais au fond que énormément de progrès ont été faits. C'est un colloque qui nous permet de faire le point, et de faire le point sur toutes les avancées que je trouve personnellement assez considérables. Je peux toujours dire qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, etc. Mais enfin, les avancées sont vraiment considérables. Il y a il s'est produit une sorte de petite révolution silencieuse du côté du doctorat, à l'université en France, et je pense qu'on peut non seulement s'en féliciter, mais remercier les organisateurs de ce colloque pour nous permettre de mettre en évidence ces évolutions, et puis évidemment de identifier les marges concrètes de progrès. Nous sommes ici, quelques mots, puis je donne la parole à mes collègues. Nous sommes ici dans l'amphithéâtre Henri Moissan. Je pense que c'est une très bonne idée d'enlever ça, dans l'amphithéâtre Henri Moissan. Pourquoi ? Parce qu'Henri Moissan, professeur de pharmacie, était aussi professeur de chimie à Sorbonne, les deux. Il avait hérité dans les années 1900 ou 1899, à la mort de Friedel, Charles Friedel, il avait hérité également de la direction de l'école, de ce qui est devenu depuis l'école nationale supérieure de chimie de Paris, qui était localisée dans des baraquements plus ou moins salubres, qui n'existent plus, mais qui sont tout près d'ici, à l'endroit où on ne peut pas les rater. C'est l'endroit où se trouve aujourd'hui le bâtiment en briques, ocre, rouge, à côté le centre Michelet de Panthéon-Sorbonne, vous savez, de l'architecture moitié mauresque, moitié mousselinienne. Et c'est à cet endroit-là que se trouvaient des baraquements qui avaient été construits pour abriter les laboratoires de chimie de la Sorbonne, qui étaient en pleine rénovation. Quand les occupants ont pu réintégrer la Sorbonne, ces baraquements ont été utilisés par Friedel, le grand Friedel, chimiste et minéralogiste, pour y monter un laboratoire devenu une école, avec l'idée de créer des enseignements pour former des chimistes pour l'industrie. Donc, vous voyez où je veux en venir. Son héritier, Friedel, est mort, disparu trop tôt, et son héritier est donc Henri Moissan qui sera prix Nobel de chimie en 1906, et l'histoire au tournant du siècle de cette école, qui est une école devenue une école d'ingénieurs, cette histoire est tout à fait particulière parce que c'est une des seules écoles, une des rares écoles qui, dès les autres écoles de chimie fonctionnent de la même façon, qui dès sa fondation met la recherche et du coup le doctorat au premier plan. On a beaucoup parlé hier, on a beaucoup entendu, et je trouve presque un peu trop d'ailleurs, des positions qui étaient « Ah ben, il y a quand même encore toujours les grandes écoles, et puis les universités, et puis bon, les organismes ont été épargnés pour une fois. » Ah puis les organismes, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces organismes ?» Voilà. Donc ça, c'était ailleurs, ça a été dit ailleurs, à l'Opest. Bon. Donc, L'intérêt de simplement se souvenir d'Henri Moisson ici aujourd'hui, c'est de dire qu'il n'y a aucune fatalité à ce que l'on forme des ingénieurs pour l'entreprise, des ingénieurs pour la chimie, et qu'on les forme également pour par la recherche. Hein. C'est le modèle que Louis Gallois hier a appelé le modèle Rhénan. Hein. Le modèle Rhénan, c'est bien de former des élites scientifiques, et de les former au contact de la recherche par la recherche. Voilà. Je voulais signaler ça, et puis se souvenir d'Henri Moisson, qui est quand même le premier prix Nobel de chimie français. Il y a, quelque part dans un couloir, pas loin d'ici, un petit musée Henri Moisson. Ah, c'est Frédéric qui est encore là. Comme de juste, il est fermé. Donc, demander la clé, voilà. Nos sujets aujourd'hui, je vais proposer, évidemment, notre parole, mon cher collègue, mais que l'on parle dans ce cadre du recrutement de doctorants, que l'on parle des changements éventuels. Aujourd'hui, ce qui a bien été dit, et ce sera sans doute, par raison que ça ne change pas, malgré les concertations qui vont se faire, plutôt confirmer le fait que dans le décret doctorant, il y aura bien quelque chose qui traitera de façon un peu définitive du fait qu'on est là dans un cadre de formation professionnelle, ça a été dit et redit hier. Dans ce cadre-là, effectivement, on peut commencer à parler tout simplement de recrutement, on recrute un doctorant. Y a-t-il aujourd'hui, comment le sentez-vous, chers collègues, des changements? Y a-t-il continuité ou rupture? Au regard du modèle un peu à l'ancienne, qui consistait à dire, un doctorant, quelqu'un qui vient dans son laboratoire pour faire une thèse, et puis, si tout va bien, il y restera, quelque chose comme ça. Hein. L'évolution de la conception que nous avons du doctorat induit-elle des changements brutaux, induit-elle des évolutions, des continuités, et si oui, lesquelles? On pourra parler aussi, je dirais, quelques mots sur l'évolution du rôle des EPST, c'est-à-dire des membres de recherche, dans la formation doctorale. Et puis, on peut aussi aborder la question de ce que peuvent être ou ce que sont les conditions pour s'orienter vers une thèse, avec en toile de fond deux éléments qui ont été mentionnés hier également plusieurs fois. Le recul du nombre de doctorants français, au moins de la proportion de doctorants français dans nos universités, dans nos écoles doctorales, et la proportion très importante, 42%, chiffre extrêmement intéressant, 42% d'étrangers parmi les doctorants. Voilà, parmi les différents thèmes, naturellement, vous êtes évidemment libre d'aborder d'autres questions qui vous paraîtraient pertinentes. Nous sommes contents d'avoir avec nous un collègue venant d'une école doctorale étrangère. Nous sommes contents d'avoir avec nous un industriel. Et je commence par passer la parole simplement par ceci de continuité avec Hervé Biosser. Il est en train de réaliser une magnifique opération à Paris-Saclay qui est la fusion centrale.
Peut-être changer de place parce que...
Tiens, bon, je vais prendre ce micro. Bon, bonjour, chers collègues. Effectivement, nous sommes plein dans la fusion de centrale et supérieure. D'ailleurs, je vous précise que centrale et supérieure, il n'y aura pas de tiret. C'est un seul mot maintenant, une seule école. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur d'être le premier directeur. Pour reprendre les questions que tu as proposées, Alain, je vais vous proposer deux petites réflexions, une négative, une positive. Voilà, on va faire comme les Indiens, Stirasuka, dans le sens du poil, dans le sens contraire du poil, et puis ça va comme ça animer un petit peu le débat. Alors, le point négatif que je vais prendre, pas négatif, mais un peu critique, c'est que je vais me reposer la question de la valeur de l'assertion suivante: les entreprises en France ne recrutent pas assez de docteurs et c'est une anomalie. Je vais contester ça. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais je vais donner quelques éléments pour dire pourquoi, à mon avis, le problème est mal posé. Comme nous sommes tous des scientifiques, nous savons bien qu'il faut passer plus de temps à poser les problèmes qu'à les résoudre. Je vais donner quelques éléments de débat, puis vous réagirez. C'est pas du tout une certitude, c'est une chose que je voudrais contester. Puis après, je vais vous dire pourquoi, néanmoins, j'encourage les élèves de Centrale Supélec à faire un doctorat. Ça sera le côté positif. Pourquoi je pense que c'est important que l'on croise en entre eux. Alors, les entreprises françaises ne recrutent pas assez de docteurs et c'est une anomalie. Alors déjà, voyons le point de vue des entreprises, puis après, voyons le point de vue des docteurs. C'est de comprendre. Les entreprises, voilà, le problème, c'est qu'elles ont beaucoup évolué. Il y a d'abord les grands groupes. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des talents qui peuvent progresser, des gens qui sont capables de gérer, de porter le changement. Et ils ont, par rapport à la R&D, également des stratégies précises. Donc ce que je voudrais dire, c'est que, à mon avis, les grands groupes qui font beaucoup de R&D, Safran, Thales, etc., savent parfaitement ce qu'ils veulent par rapport à ça. Je crois qu'il n'y a pas de surprise. Et si on compte sur les grands groupes, en particulier les grands groupes technologiques, pour augmenter le nombre de docteurs recrutés, ça sera très faible, ça sera marginal. Alors, il y a peut-être des champs de conquête à l'international, mais en France, ça sera marginal. Et une des raisons, c'est que il faut voir qu'est-ce que finalement, quel type de talent les docteurs proposent. Et là, c'est là où je vais rentrer dans un débat un peu plus complexe. Premièrement, il y a une vraie question, on le sait, pour, du côté des grands groupes, sur la sélectivité. Est-ce que les docteurs qu'on leur présente ont été sélectionnés? Est-ce qu'ils représentent le top du top? Nous savons tous qu'il y a très très bons docteurs, mais qu'il y en a de moins bons. Hein, et par conséquent, comment se pose cette question de la sélection des candidats, au départ? Deuxièmement, quelles qualités ils ont? Alors moi, je défends la thèse que le doctorat, c'est une fantastique façon de progresser en termes de méthode. Ce qu'on apprend notamment en doctorat, c'est la méthode de la recherche, c'est poser des questions. Et à un étudiant qui me demandait « Mais pourquoi vous voulez que je fasse un doctorat ?» Je lui dis « Écoutez, vous allez apprendre deux choses formidables, vous allez apprendre à lire et à écrire. » Et je le pense très très profondément. Ils vont apprendre à lire des articles, à défendre des points de vue, et puis ils vont apprendre à écrire. Et quand on voit le niveau de français des bacheliers actuels, c'est pas un travail inutile. De s'exprimer clairement, il n'y a pas de miracle. Si les scientifiques publient des papiers écrits, c'est parce que la pensée se structure à l'écrit. Donc ça, c'est formidable. Alors maintenant, est-ce qu'ils sont créatifs et leaders? Je pense la question est ouverte. Moi, je ne suis pas certain que quelqu'un qui a fait un doctorat sera mécaniquement leader et créatif. Et je pense que cette question est ouverte, je vous la soumets. Je pense, est-ce qu'ils connaîtront l'entreprise, est-ce qu'ils y sont prêts? C'est clair que toutes les écoles doctorales font d'énormes programmes pour préparer les docteurs à d'autres carrières que celles de la recherche, ou d'autres environnements professionnels que ceux de la recherche. Je voudrais juste signaler ici qu'ancien administrateur de la NRT, avec beaucoup de plaisir, je pense que la CIFRE est certainement un des plus beaux progrès que le système a fait dans les 15 dernières années. La CIFRE, c'est énormément l'avantage de ça, je dirais pourquoi tout à l'heure. Ça, c'est le problème des grands groupes. Je pense que si on veut recruter davantage de docteurs dans l'entreprise, dans les grands groupes, ben, ça va se faire, enfin, on ne va pas révolutionner la situation. Alors, quelle est la question pour moi? La question pour moi, c'est qu'il y a tout un champ qui ne recrute pas assez de docteurs mécaniquement, c'est le champ des ETI et des start-up. Les ETI, c'est clair, la France n'en a pas assez, les entreprises technologiques de croissance, qui sont un endroit mais naturel pour que les docteurs soient recrutés, parce que ce sont des structures qui, par rapport à leur volume financier, vont faire beaucoup de R&D, vont miser sur des développements. Et on sait bien, la France, on a trois fois moins. Guillaume Blattaz, c'est Poumon, a raconté ça depuis 20 ans. La France, on a trois fois moins que l'Allemagne. Et c'est vraiment le marché sur lequel il faut compter. Le deuxième marché, c'est celui des startups. Je me souviens de conversations qu'on avait avec Landes, je pense que Landes existe toujours, qui considérait que c'était un débouché normal. Et je pense effectivement que c'est un débouché normal pour les docteurs. Donc voilà pour le point de vue du marché. Alors, du côté des docteurs, bon. Je ne sais pas si cette statistique est toujours vraie, mais quand on avait posé la question, plus de trois quarts des gens qui s'inscrivent en doctorat rêvent de faire une carrière dans l'enseignement supérieur ou dans un institut de recherche. On sait très bien que ce sera à peu près 20% qui vont rêver. Donc pour plus de la moitié d'entre eux, il faut qu'ils changent de projet professionnel pendant le doctorat. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Et on comprend que le marché, de l'heure, a du mal à s'établir. On comprend que c'est difficile à établir. Et que les jeunes... ta question concernant la baisse du nombre de docteurs en France, dans une société, on ne se sent pas ici, mais dans une société du chômage. Enfin, je veux dire, 5 millions de chômeurs en France, c'est inacceptable. Mais pensons à la peur que ça peut générer chez nos étudiants, et qui vont aller naturellement vers des formations perçues comme immédiatement professionnalisantes. Donc je pense que moi, il faut vraiment croire, se donner les moyens, encourager les gens à aller non seulement vers le doctorat, mais aussi à créer des start-up, développer des ETI, parce que notre pays en a besoin, et je pense que si c'est le cas, on va beaucoup progresser. Est-ce une anomalie française? On avait fait une étude à la NRT, c'est Jean-Claude Lehmann qui l'avait piloté, j'ai eu le plaisir de la copiloter avec lui, qui montrait que non, c'est pas une anomalie française, alors il y avait plein de choses qui avaient été montrées, je vais en citer quelques-unes, on avait démontré qu'en fait l'anomalie c'est l'Allemagne et la Suisse. Et on avait regardé en particulier le nombre de docteurs dans le board des 200 entreprises mondiales faisant le plus de R&D. Alors le résultat est hallucinant. Je crois que pour me souvenir, en Allemagne, c'est 56%. En Suisse, 33%. La France n'est pas si mauvaise que ça, 20%. Et le pire pays, ce sont les Les États-Unis, moins de 8%. Alors c'est quand même totalement paradoxal. Et la raison, on la comprend très bien, c'est une deuxième raison que je veux mettre sur le tapis, c'est qu'on s'était rendu compte que les Américains savent recruter des docteurs, et pourquoi ils recrutent des docteurs? Ils recrutent des docteurs parce que ce sont des gens qui sont des vrais professionnels de la R&D. Et on s'était rendu compte que dans les gens qui faisaient carrière dans la R&D aux États-Unis, dans les groupes techniques, les groupes faisant beaucoup de R&D aux États-Unis, plus de 50% faisaient la totalité de leur carrière dans la R&D. Ça veut dire que les Américains recrutaient ces personnes parce qu'ils savent très très bien faire c'est de la R&D. Et on a, là encore, à mon avis, une évolution du tissu social qui doit être portée. Voilà. Et puis, dernier élément, pourquoi on a beaucoup d'étrangers? Vous savez, la situation est formidablement différente d'un pays à l'autre. Moi, je n'ai pas les dernières statistiques, mais donc en France, on fait un doctorat, on va avoir une position académique stable, c'est une chance sur 4, une chance sur 5. Au Brésil, c'est presque 3 chances sur 4. Donc au Brésil, faire un doctorat, si on veut aller à l'enseignement supérieur, c'est plutôt un coup sûr. En France, c'est difficile. En Chine, c'est un coup sûr. Encore pour quelques années. Donc là encore, des différences, et qui fait qu'on a légitimement beaucoup de doctorants étrangers. D'une part, parce que dans ces pays, les systèmes d'éducation sont à plomb, et d'autre part, parce que ces pays ont des entreprises techniques de croissance, en pleine croissance, et nombreuses. Donc le marché est très à plomb de gens qui portent de la R&D et qui sont capables de gérer l'innovation technique. Alors pourquoi néanmoins, j'encourage les élèves de Centrale Supérieure à en faire, au-delà des étrangers, parce que c'est facile, tu le dis, c'est simple, comment on est. Et je pense qu'il y a au moins 5 raisons. La première, c'est quand on a 20 ans, il est légitime de se poser la question sur un domaine scientifique qu'on a d'avoir envie d'aller à fond. Et cette motivation reste à mon avis très forte. Avoir envie de se mesurer un problème, d'aller au bout. Bon, et ça c'est absolument évident. La deuxième, c'est qu'on a, par contre, et ça c'est un bon signe, vous savez qu'en France, on est plutôt très bon sur la génération de start-up. On a beaucoup, beaucoup de start-up, ce qui ne marche pas bien, c'est le capital risque et l'accompagnement, mais on a beaucoup de jeunes qui veulent aller. La deuxième, c'est que ça peut générer des vocations d'entrepreneurs et de développeurs. Et donc ça, moi j'encourage. La troisième, c'est qu'il y a des secteurs d'activité où même pour un manager ou un patron d'usine, c'est important d'aller au-delà d'un diplôme Bac plus 5. Alors, les domaines sont connus, c'est la bioingénierie, c'est les nanosciences, et il y a de plus en plus de domaines où même pour être manager, c'est intéressant d'aller au bout de la démarche. La quatrième, c'est qu'il faut, c'est aussi quand même un titre qui donne une reconnaissance internationale. Quand on regarde sur 10 ans sur les motivations de nos élèves, la motivation de carrière qui a le plus progressé, c'est « moi je veux faire une carrière à l'international ». Tous maintenant considèrent qu'il est normal qu'une partie de leur carrière se fasse à l'international et de plus en plus envisagent de faire essentiellement leur carrière à l'international. Et évidemment le titre a beaucoup de valeur et c'est un facteur de reconnaissance. Et puis enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'on en a quand même beaucoup qui se projettent dans l'enseignement supérieur. On a beaucoup moins envie d'être chercheur professionnel. Et évidemment, c'est là où ils encouragent. Alors je vous signale, je finirai là, qu'à la Centrale Supérieure, on a mis en place dès la première année ce qu'on appelle le parcours recherche, qui est le symétrique de l'apprentissage. Donc on peut faire la Centrale Supérieure par apprentissage. Et vous savez que dans l'apprentissage, on est 50% à l'école, 50% dans l'entreprise. Et bien là, c'est exactement le symétrique. Dès la première année, on fait 50% à l'école et 50% dans un labo. Et on a, c'est expérimental actuellement, une trentaine d'élèves qui font ça. On a eu l'énorme bonheur d'en avoir deux qui, sans master, ont été pris en maths à Cambridge directement en PhD, ce qui montre bien qu'on a aussi des élèves qui sont très brillants. Et évidemment, cela les encourage. Voilà ce que je souhaitais dire.
Merci beaucoup. Monsieur Dussault.
Un, deux. Merci de votre invitation. Alors, le temps que la présentation se monte, je voudrais vous dire que je vais en rajouter une couche, moi, ce qui vient d'être raconté, avec le point de vue bien d'un, non pas d'un recruteur à l'intérieur d'un grand groupe industriel, mais de quelqu'un qui est censé animer des équipes de recherche. Donc, j'ai une double casquette. C'est que dans le centre de recherche d'Airbus, donc la partie centralisée, il y a, j'ai un titre de directeur scientifique et qui également j'ai une deuxième casquette qui est dans une école d'ingénieurs. Donc d'un côté j'essaie de recruter des docteurs, de l'autre côté j'essaie d'en former. C'est bien comme ça, au moins je sais ce que je recrute. Alors je vais rapidement, si ça se présente bien, vous prendre quelques axes pour aider des docteurs, par exemple, à rentrer dans un groupe comme le nôtre. La première chose, c'est qu'un groupe, c'est une structure et qu'il vaudrait mieux la connaître, parce que ça donne une idée des profils qui sont atteignables. Par exemple, je vous ai entouré la structure à laquelle j'appartiens, qui est la partie centralisée et qui contient le centre de recherche. Il est évident que là, la culture de la recherche et la compréhension de ce qu'il y a dans une école doctorale, c'est à peu près acquis. Plus on va vers la partie base du transparent, donc près des programmes, près des projets, près des produits, moins la notion de recherche est importante pour les chefs d'équipe. Ce qu'ils veulent, c'est, dans le meilleur des cas, un peu d'innovation, mais pas trop, parce que c'est une prise de risque. Mais ce qu'ils veulent, c'est des gens qui comprennent très très vite les problèmes de l'entreprise, les problèmes du produit, etc. Donc évidemment, si on cherche un travail dans une entreprise comme la nôtre, et je pense Thales, Safran, même combat, etc., il faut absolument savoir ce que l'on vise. Est-ce que l'on va donc valoriser ? Donc, encore une fois, innovation vis-à-vis de recherche. L'innovation, dans notre vocabulaire, c'est l'endroit où la recherche a trouvé son marché. Ça y est, les gros mots sont lâchés. Il faut parler d'argent, il faut avoir une double compétence. C'est évidemment ce qui va être important pour moi. Deuxième axe d'attaque, eh bien, un groupe comme le nôtre, il intervient à l'international. Ça a déjà été signalé plusieurs fois. Alors, comment est-ce qu'on se positionne quand on est docteur, quand on envisage de faire une recherche, un doctorat, pour entrer dans un groupe comme ça ? Bah, tout d'abord, il faut regarder le sujet. Il est évident que quand on veut faire une carrière à l'international, plutôt dans les hautes sphères d'un groupe comme le nôtre, le PhD est un diplôme qui est reconnu. Mais il y a d'autres carrières, et ça dépend encore une fois des domaines. Par exemple, aujourd'hui, quand on est un mathématicien français, pour faire de la finance, PhD, ça apporte pas grand-chose au niveau du salaire. Pour l'instant. Dans 3-4 ans, quand il faudra aller plus haut, peut-être que ça sera important. Donc encore une fois, il y a une espèce de conjoncture, et ça, il faut bien la comprendre. Il faut comprendre, en gros, ce que les entreprises attendent. Il y a Louis Gallois qui a donné un certain nombre de chiffres hier que je vais préciser et confirmer. Je ne vais certainement pas aller contre mon ancien patron.
Surtout qu'il était administrateur de l'école centrale.
Oui, donc attention. Alors, la partie centralisée de la recherche à l'intérieur du groupe Airbus, c'est environ 800 chercheurs, comme c'est marqué dans le transparent. Là-dessus, il y a environ 150 docteurs. Eh bien, 50 à 60 sont en Allemagne, autour de 25, plus ou moins 4 ou 5 sont en France, 35 sont au United Kingdom, et puis après une vingtaine qui se baladent, 5 aux États-Unis, 3 à Singapour, etc. Alors ça veut dire 2-3 choses. D'abord, il y en a beaucoup plus en Allemagne, effectivement, qu'en France. Pourquoi ? Ben, on peut se poser la question, est-ce que c'est un problème de profil ? Est-ce que c'est un problème de financement ? Est-ce que c'est un problème de réseau ? Alors, évidemment, il y a un problème culturel, enfin, il y a un historique culturel. Après, il y a une autre caractéristique que je voudrais lancer. Effectivement, la formation à la française est très, du point de vue scientifique, par exemple, pousse à l'excellence, mais également, elle a un côté très théorique. Ce qui veut dire qu'à part l'instrument CIFRE, où là, c'est particulièrement facile à lire, et je reviendrai dessus pour une entreprise, le contenu du doctorat, bah, pour certains autres doctorats, c'est difficile de comprendre quelle est la valeur ajoutée. Enfin bref, on revient sur le discours qu'on a entendu hier. Et puis le deuxième enseignement que je voudrais pousser, c'est que les groupes comme les nôtres ont tendance à se spécialiser par endroit et éventuellement par géographie. Donc également, il faut se poser la question sur quels sont les thèmes sur lesquels les docteurs français sont vraiment différents des docteurs allemands, singapouriens, indiens, chinois, etc. Parce que quand on est dans les domaines dans lesquels on n'est pas en première ligue, eh ben, c'est pas évident d'être repéré par l'excellence. Alors, autre instrument qui me paraît important pour un jeune docteur de connaître, c'est que la plupart des groupes fonctionnent avec un réseau. C'est pas simplement, on recrute pas simplement des docteurs pour nos équipes. On recrute essentiellement, ou on essaie de pousser des doctorats dans ce que j'appellerais une espèce d'écosystème. Et là, l'historique est très, très important. Par exemple, la façon dont sont financés les laboratoires au Royaume-Uni est assez différente de ce qui se passe en France. En Allemagne, il y a une tradition différente, etc. Et je voudrais insister, par exemple, et tirer un enseignement de la partie qui est en bas à gauche, transparent, la partie française, et des IRT, Instituts de Recherche et de Technologie. Et je voudrais saluer, par exemple, l'école Centrale Supélec. D'un seul coup, sortirait, parce que eux ont joué le jeu du premier coup, c'est-à-dire qu'ils sont montés et c'est un espèce d'incubateur qui fait du transfert entre la recherche amont et les entreprises. Eh bien, à ma grande surprise, enfin, je ne sais pas si c'est une grande surprise, mais il n'y a pas beaucoup d'écoles qui sont montées, il n'y a pas beaucoup de chercheurs, de laboratoires qui ont compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour leurs doctorants. Et je le comprends par ailleurs, parce que c'est quand même, en termes de paperasse et en termes de charges pour les encadrants, extrêmement lourd. Donc la valeur, elle est pour leurs doctorants. Mais c'est, par exemple, un des instruments qui nous manque. Et évidemment, ce qu'il y a autour de ces instituts de recherche et technologie, en espérant que ça va bien se développer et que ça va marcher, eh bien, c'est beaucoup de start-up, beaucoup d'endroits. Et évidemment, il y a beaucoup de boulot pour des jeunes doctorants dans ces structures. En gros, bien plus qu'il n'y en a à l'intérieur du groupe Airbus. Alors, maintenant, le sujet, c'était l'orientation vers le doctorat, le recrutement des doctorants. Moi, je voudrais faire quelques remarques. Il faut absolument, dans la formation par la recherche, que les jeunes comprennent que c'est différent d'être chercheur à plein temps dans une entreprise et d'avoir une formation par la recherche. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des trajectoires dans les entreprises. Beaucoup de choses ont été dites là-dessus hier. Et encore une fois, les compétences, en plus de lire et écrire, il y a par exemple quelque chose qui me paraît très important, c'est être capable de faire un état de l'art et de critiquer ce qui s'est déjà fait. Et ça, on l'apprend quand on fait une thèse. C'est pas du tout évident qu'on l'apprenne quand on fait diplôme d'ingénieur standard, que la formation par la recherche, ça doit également introduire la compréhension du fait qu'il va y avoir une évolution dans son travail et que, évidemment, les entreprises vont changer à cause de phénomènes extérieurs. Donc la thématique sur laquelle on démarre, il y a peu de chances que ça soit la thématique sur laquelle on soit 20 ans après. Alors évidemment, ce n'est pas exactement la façon dont fonctionnent les laboratoires purement universitaires. En tout cas, les contraintes de temps ne sont pas les mêmes. Après, le deuxième message que j'envoie, moi, vers les jeunes gens qui viennent me voir, c'est que si on veut faire un PhD, il faut que ça soit différenciant. Sinon, c'est quand même 3 ans de sa vie, c'est pas simple. Il y a des grands moments de douleur, il y a des grands moments de solitude. Donc, faudrait quand même que ça apporte quelque chose. Alors, ça peut apporter quelque chose sur le plan humain, mais également, alors comme ça a été dit hier par Pierre-Paul Zaliot, d'un point de vue sociologique, les classes dirigeantes connaissent bien l'apport d'un PhD, il y en a quand même plein qui n'ont pas compris ce que ça pouvait amener. Et quand on est bien mieux payé si on a fait un PhD, il n'y a pas de problème. On comprend. Et il y a plein de gens des grandes écoles françaises qui vont valoriser encore plus leur diplôme. Par exemple à Stanford, par exemple à Berkeley, par exemple à Cambridge, la notion de marque d'image est très importante là-dessus. Alors, évidemment, moi, ce que je voudrais passer comme message, c'est que la première axe de carrière, c'est celle d'expert. Et celle d'expert, de plus en plus d'entreprises ont des formations internes pour détecter leurs experts, et le message est extrêmement clair. Vous avez vu le nombre de restructurations qu'il y a dans les entreprises aujourd'hui, le nombre de personnes qui sont virer, en gros. Eh bien, dans des grosses boîtes, on vire quelques managers, pas beaucoup. On vire beaucoup de chefs de projet, parce que ça, c'est interchangeable. On réfléchit à deux fois, on dirait ses experts. Donc, par exemple, je ne dis pas que c'est une garantie sur l'emploi, mais d'avoir une carrière d'expert qui forcément commence très, très proche d'un PhD, ça, c'est important. Et puis, dernier message, il ne faut pas se planter sur le sujet. Par exemple, les laboratoires, ils sont très forts sur les sujets d'aujourd'hui. La formation par la recherche, c'est les sujets de dans 5 ans, de dans 10 ans. Donc il faut un tout petit poil anticiper sur qu'est-ce qui va se produire. Alors attention aux effets de mode. Mais je voudrais vous donner un exemple sur la mode actuelle, le big data. Eh bien, par exemple, les écoles doctorales, elles ne forment pas tant que ça des gens en big data. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce n'est pas les laboratoires de recherche de statistiques ou d'informatique théorique qui sortent ces gens-là. C'est beaucoup plus pragmatiquement, c'est un petit peu Télécom Paris, c'est beaucoup des entreprises comme autour de Google, etc. Je pense qu'il faut réfléchir à cette vitesse de réactivité pour former des gens dont on aura besoin. Sinon, aujourd'hui, mes petits étudiants des ponts, ils barrent à toute vitesse vers les laboratoires anglo-saxons et américains en particulier. Ça m'ennuie fortement, ça. Alors, deuxième partie du volet, le recrutement des docteurs. Alors évidemment, le CIFRE, dans les entreprises, ça c'est le bon passeport parce qu'on le comprend. Enfin, c'est un très bon passeport à condition qu'on ait choisi le bon labo, le bon sujet, et puis que l'encadrant dans l'entreprise, il n'ait pas confondu la CIFRE avec un CDD longue durée. Parce que sinon, c'est pas terrible. Et là, il faut que du côté des écoles doctorales, vous résistiez à la tentation qu'il y ait de faire des docteurs, enfin des CDD, le niveau des docteurs. Ça, c'est vraiment fondamental si on veut défendre cette chose-là. Alors évidemment, ça doit compléter les qualités individuelles du doctorant, et ça, on ne pourra pas l'empêcher. L'évolution, la souplesse d'esprit. Hier a été sorti à un moment, les entreprises redoutent le professeur Tournesol. Bah oui, évidemment, parce que le professeur Tournesol, il avance pas à la vitesse de l'entreprise, mais c'est normalement pas le schéma qui nous arrive. Après, un petit retour vers les RH. Nos RH sont très sélectifs. Sélectifs dans le sens, on veut le top du top, etc., quels que soient les pays. Le PhD, bah, pour eux, c'est un grade. Ils ont du mal à le lire. Alors pourquoi ? Bah, parce qu'ils comprennent bien la marque centrale, par exemple, Centrale Supélec. Les écoles centrales se sont regroupées à différents endroits, etc. Donc ça, c'est une garantie pour aider à la lecture. Vous avez vu le nombre de masters qu'il y a en France ? Vous avez vu le nombre d'écoles doctorales, la variété ? C'est très difficile à lire. Je dis pas que c'est pas normal, je dis que ça aide pas. Donc, il va falloir peut-être que vous aidiez les gens à communiquer là-dessus. Et puis, le dernier message, c'est attention, il y a quand même quelquefois des chocs de culture entre le monde de la recherche, avec les guillemets qui vont bien, et le monde de l'industrie, et ceci au moins en France. Il y a quelque chose qui, moi, me paraît très important dans le monde de la recherche, c'est l'évaluation par les pairs. Ça, c'est la valeur principale, en général, qui est poussée en avant. Dans l'entreprise, c'est essentiellement l'argent qui est la valeur qui est poussée en avant. L'argent qu'on gagne, l'argent qu'on fait gagner. C'est pas vraiment la même valeur. Dans le monde de la recherche, souvent, il y a une liberté de choix. Un peu contrainte, mais en tout cas, on choisit les sujets sur lesquels on investit. Dans le monde de l'industrie, c'est complètement la hiérarchie qui décide. Et ça peut beaucoup peiner les gens. Et puis, dans le monde de la recherche, souvent, c'est quand même un chercheur mentor avec son élève. Ça a été dit plusieurs fois hier dans le monde de l'industrie, c'est la notion de groupe, c'est l'équipe. Jamais, moi, je ne signe un papier qui a été, enfin, un document interne qui a été fait par moins de 3 ou 4 personnes. Et cette notion de travail en groupe, il faut également la développer. Donc, je me dis, allez, c'est un petit pense-bête, mais ça peut aider un certain nombre de doctorants.
Merci beaucoup.
Je pense que... Pardon, Monsieur Govers, il faut qu'on lui...
Donc, est-ce possible d'avoir la...
Pardon ?
Donc, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Gérard Govers de l'Université de Leuven, Belgique. Je parle français, mais je vais quand même présenter mes diapos en anglais parce qu'il y a quand même une terminologie qui est un peu, disons, spécifique. So I'm going to talk about the recruitment of PhD candidates. So I probably interpreted, you know, the message that I was given a bit different from other people here around the table, but I don't think that's really a problem because we've talked about a lot about what a PhD student should be and where he or she should go after having completed the PhD. But one important aspect of the PhD process is recruiting PhD candidates. Where do you get them? How do you get them? Well, I will talk from my perspective, which is the KU Leuven, which is the Katholieke Universiteit Leuven in Belgium. Its history is complicated, but that doesn't matter for the moment. It has about over 40,000 BSc and MSc students, and its main campus is situated in Leuven, but it has campuses all over Flanders. Nowadays, it has 3 doctoral schools, one in biomedical sciences, one in science and engineering and technology, where I am the head of, and one in humanities and social sciences. That's about all. So, not too much, I would say, differentiation. In terms of PhDs, well, we have about 5,000 PhD candidates, of which 40% are non-Belgium, and we award about 650 PhD degrees every year, 250 more or less. Are obtained by foreign candidates. So, well, the distribution about on the different groups is not totally relevant, I think. So when I took up this post as being director of the head of the School of Sciences and Technology, well, the big worry at our university was, you know, we have to sell this product. The number of PhD candidates has gone up tremendously. And there may be a problem on the labor market. We may not get rid of them, so to speak. So we have to do something about them. And but what we noticed when we started to interact with industry and with other, because this is important as well, with other sectors of society, it's not only industry that needs, let's say, highly qualified people, also other sectors of society need it, and they need it more badly than they ever thought they would need them. We noticed that, in fact, the attitude of industry and of the other sectors of society towards people having a PhD degree was much more positive than we thought it was from within the university. But there was also another important thing, and that was that, okay, for a company or even for a public institution, having a PhD does not automatically award you some rights. You are working in a competitive environment, and you will have to prove yourself. There's nothing to be done about that, and I think it's a good thing. But that automatically means that universities have to reflect very thoroughly on the quality of the PhDs they deliver. This is really of crucial importance. And yesterday we were talking about the transition doctorale, which I thought was a nice term. It was Bruno Bost who used it. And if you think that this transition doctorale has passed already in Europe, you're wrong. It may have passed in this room, but it certainly does not have passed everywhere in our academic institutions in Europe. So this drive towards PhDs that can be employed on a competitive labor market, which is really necessary because only 6% of our PhD students will end up in academia, has not been recognized, fully recognized by all academic institutions in Europe, and there is a lot of work that needs to be done there. It also has not been recognized fully by my university, by the way. So we're not an exception to that. And, well, if you look at PhDs, there are basically two discourses that are, and I'm going to simplify them, of course. The first one is what you will find in official documents of the European Union, where people say there is a war on talent going on, and we need to attract the brightest and the youngest people with the highest potential to make a PhD. We need more PhDs. The other discourse that you often use, that you still hear within universities, is a PhD is more or less useless. Chances of becoming an academic are really slim, and they are. And it is undervalued and underpaid when compared to alternatives. And my point is that both are right. Both are right because not everybody should make a PhD. And this is something that we should be aware of. As was said in the earlier roundtable, a PhD is a person that will be PhD candidate is a person that needs, will be trained. It's a nasty word if you like, but it's a kind of an end product of a project, awarding a PhD diploma. And not everybody should go through that process. It should only be people that have some passion for research. If you're not interested in research, why bother making a PhD? So that's really very important. The good news then is that the environments in which research-oriented professionals can operate and can, show their qualities is increasing through time. Our systems that we use to manage our society, our enterprises, our planes, whatever, are becoming more and more complex. They need not only more complex management, but more and more complex research is needed to optimize them and to make them fully functional and to keep them fully functional. So that's not a problem. So now then, how do we find these best PhD students that we want? And I think there we have to differentiate between the local market or the regional market, France or Western Europe, if you like. For us, it would be Flanders and Western Europe. And then, let's say, the international market, basically PhD students coming from other continents. And for the home market, it is really important that we learn to communicate with our MSc students. Well, in Belgium, you have to have an MSc to go to a PhD. Here, it may be different. But the process starts well before the project is announced. You have a group of students that may be interested in making a PhD, and they need to know perfectly well what it means to make a PhD, and they need to know perfectly well what their role is in the process. So we try to, we invest really a lot of effort in there. We go to job fairs, we organize information sessions, etc., etc. Of course, an institution has to do more. It has to provide a good working environment. I think that's something we know. But for instance, about employment, if we look at Belgium, if we look at how small technical companies operate, it's really quite clear that PhDs have a much better have much better perspectives of making a career into management and, let's say, into the higher positions than others have. This is an example of Galapagos. That's a startup in biomedical sciences. And this is, I'm not going to read all this through all this, but you can see that the fraction of PhDs is moving, is increasing towards the right, which are the, let's say, the senior positions. Also, if we, you know, this is also important to have these kind of numbers showing that unemployment for people with a PhD is really low, at least in Flanders, not only in science and technology, but also in humanities, and that all of them gain in salary. If you look, you know, at their position 5 to 10 years after a PhD, people with a PhD are better paid than people without a PhD. So these are some of the myths that we need, but we have to talk to our MSc students about this, because they see these things sometimes really quite differently. Providing a good working environment is, of course, important, making sure that people are reasonably well paid, but also making sure that PhD students see a PhD as what it is, and that's a tremendous opportunity. You have to provide the necessary opportunities, training opportunities, both in terms of generic and thematic skills. Do you need to make them obligatory? Well, we could discuss about that. I would argue that some obligation is really important. Whether or not it needs to be 30 ECTS, that's something to be debated, I would say. What is also important is that you empower your potential PhD candidates. This was, in fact, the word why I preferred not to do my presentation in French, because I could not find a good alternative for empowerment. So it is really important that a PhD candidate, when he applies or she applies, knows that he or she is partly in charge. You can choose your topic, you can choose your promoter, you can choose the course of the project. You have a really big say in the matter, in fact. And you have to support this process, and you have to support them in this selection process. It's really important to make these people aware of their, yeah, if you want to call it like that, power in the process. And also make them aware that not only the topic is important, but also the promoter. Just make them aware of that. Give them the message that they have to think about who is going to be their promoter, what kind of person will this be. There are two reasons for doing that. The first reason is that it's really important that the MSc student is aware of this. The second reason is that this kind of message towards your MSc students will drive your institution towards a quality culture. Because your promoters will start to realize, it's important that I'm a good promoter, because this is communicated to the MSc students. On the international market, evidently, the situation is a bit the reverse. I mean, if you advertise a PhD position at KU Leuven, you will at least receive 100, maybe 200 applications coming from different countries, mainly in Asia and Africa, of people who want to make a PhD. Then the question is, of course, how can you select the good candidates, and how do you make sure that the good candidates find you? And these are difficult questions, and also KU Leuven is really struggling with that. The recruitment process has somewhat evolved, though, and this is a good thing, where it was something that was done by the individual promoter and only by him or her, maybe 10 years ago, 10 or 15 years ago. Now the institution is more supportive. It provides information, it helps the people to use procedures that allow them to select the best candidates. However, I'll be honest with you, I think at KU Leuven, it will still be for a long time to come, at least until my retirement, that the promoter will have the major say in who is going to be hired. That's not going to change that easy. But it's easy. And you could then say, let's forget about it then. Let the promoter do whatever he or she wants. But that's, I think, not the right attitude. It's really important to educate. It sounds a bit impolite, but nevertheless, it's a bit that, you know, you have to inform people and you have to make them aware of the implications of the decisions they make. We still see too often at KU Leuven promoters hiring their best or what they think their best MSc student for the project without an open vacancy. We think we should move away from that. And the first step we did was to make it much more easy for them to advertise internationally. Now they simply have to push one button, as it were, and their vacancy will be on Euraxis and on several international job sites where people can find them. I think in a second phase, we will make this process obligatory. We will make it obligatory that there is an open vacancy every time a PhD project is announced. We think it's important. So, and this has come up already several times during this morning session, and I think it's really very important. We also have to train or educate or whatever you want to call it. I don't want to be cross or impolite, that's not the point, but it's important that we realize that a university such as KU Leuven, but some French universities will have the same size, they have over 1,000 potential promoters of PhDs. Now, not all of them have read the Bologna documents, not all of them have read the LERU documents, not all of them are aware about legislation on PhDs. Believe me. So we have to really put a big effort towards internal communication within our institutions, and we have to provide training opportunities. And surprisingly, again, the demand for such training opportunities is much larger than you would expect. Young professors, they realize that they need to be good promoters, and they want to use every possibility they have to become a good promoter. With the older generation, it's a bit more difficult, but okay, it was called a transition, so it's not a revolution, so it will take some time. Okay, so, well, within the institution, I think in Leuven we did already quite a bit of work. We have now a set of transparent rules and regulations that is applicable throughout the university, so that is the same for each PhD student at KU Leuven, and I think that is really a good thing. To not have these different regulations for different small units that are slightly different from each other, it creates a lot of confusion within the cohort of PhD students you have. You cannot communicate with them. You cannot communicate your regulations framework to your MSc students. So it's creating a lot of hassle if you don't have that. We also provide quite a bit of professional support now. We have courses on transferable skills. We have courses on thematic skills. We also have a career center. And this is something that is a bit vague, but it proves to be important. It's a place where young people can go and discuss their career perspectives or their career problems with professionals in the field. They cannot always solve the problems, but you know, having this possibility of communicating is really important for young researchers. We should not underestimate the feelings of loneliness that they sometimes experience. They are sitting in front of this project, the project is not working, the promoter is away for 4 weeks, and they really don't know where to go. This happens. And then it's important that there are some people available that can do that. Create opportunities. So if we want a PhD to be seen as a tremendous opportunity, we have to make sure that we create these opportunities, like facilitating international mobility, facilitate joint doctorates, facilitate collaborations with companies, and with local institutions, with public institutions and local administrations. So we tried at KU Leuven to make these things as flexible as possible. This was also important. Now, the other question is, of course, the $1 million question. I'm not going to talk a lot about it. We all know that trying to make sure that the good candidates find you is not an easy job, but we're all working quite hard to it. And then, I think in France, you should use all assets you have. I mean, the quality of life in Leuven is quite good. I'm happy to live there, but let's face it, the quality of life in France is also quite good. Use it. I mean, it's an asset you have. Do not only use the assets of your institution, but talk about your country, the atmosphere, the way people live there, because that's also attractive to many good people coming from abroad. Are we successful? Then we come to the problem of quality assurance, and I would say an honest answer would then be, we don't know. We have put all these things in place. We do not have yet a cycle of quality assurance that could tell us whether or not we made a lot of progress over the last years. I think we have, but I also think there is a lot of more work to do. Thank you very much.
Thank you very much, Professor Carvos, for this very stimulating talk. C'était vraiment extrêmement intéressant. Merci beaucoup, chers collègues. On va donner la parole à là, une ou deux petites remarques générales, peut-être je ne vais pas synthétiser tout ce qui a été dit, mais je dirais que
nous voyons que, alors, dans cette transition, transition doctorale, ce que nous voyons bien, c'est que, au fond, nous sommes quelque part au milieu.
Merci.
Le processus est en cours. Le processus est en cours. Donc moi, je pense qu'il est important, dans un collègue comme celui-ci, de repérer ce qui change, de repérer ce qui évolue, de le pointer, et de dire que voilà, ça, ce sont des éléments qui nous permettent d'avancer. Je crois que dans le doctorat tel que nous le pratiquons, si vous permettez cette expression ici en France, il y a vraiment des choses qui ont changé. La charte des thèses, rien de rien, la charte des thèses, c'est extrêmement important. Elles sont bien faites, les chartes des thèses, aujourd'hui. Le financement, qui est maintenant la règle, une chasse, aujourd'hui, à toutes les thèses non financées, on n'est pas au bout de nos peines, quand même. Les formations dans les écoles doctorales, et ainsi de suite. Il y a, évidemment, on est dans un monde un peu ambivalent, obligatoirement, que ce soit du côté université, du côté entreprise, du côté gouvernement, du côté institution européenne. On est capable de dire en même temps, prenons ce dernier exemple, on est capable de dire en même temps qu'il est extrêmement important de développer la recherche dans une économie fondée sur la connaissance, que nous devons absolument arriver le plus vite possible à 3% de nos produits intérieurs bruts consacrés à la recherche. Et puis en même temps, à côté, on va faire un plan dont le nom est celui du président de la Commission, un plan qui va se... J'ai rien à dire sur ce plan-là, c'est pas le sujet, mais qui va se financer probablement en prenant de l'argent sur H2020. Alors les conséquences, vous la connaissez, notamment, prenons un lieu d'excellence en formation doctorale, parce qu'on donne de l'argent à d'excellents chercheurs, c'est l'ERC, le European Research Council, eh bien, si cet argent est pris dans H20 et donc aussi dans l'ERC, on peut chiffrer le fait que ça aura pour conséquence qu'il y a peut-être, je ne sais pas, une centaine, quelque chose comme ça, de bourses ERC qui ne seront pas distribuées dans les années qui viennent, et ça veut dire que traduit en nombre de docteurs formés dans les meilleurs, auprès des meilleurs PIs, eh bien, on aura un défaut de quelques centaines ou de quelques milliers éventuellement de docteurs. Beaucoup d'ambivalence, beaucoup de choses à faire évoluer, mais globalement, essayons de repérer les endroits où ça bouge. Moi, je connais beaucoup d'entreprises, pour avoir travaillé avec elles, qui ne embauchaient aucun docteur il y a encore 10 ans, qui aujourd'hui ne veulent que des docteurs. Voilà, il y a des choses qui bougent. Bien, écoutez, la parole est à vous pour les questions ou des commentaires.
Oui, merci pour cette très bonne présentation. Je vois qu'il y a plusieurs... Jean-Charles Bénitim, pardon, IFP Énergie Nouvelle. Je vois qu'il y a plusieurs visions sur les qualités qu'on va considérer comme importantes dans un candidat qui viendrait candidat doctoral. On a parlé en particulier de l'entrepreneuriat. Hier, nous avons eu cette présentation de de Roche qui n'y croyait pas du tout, disait qu'il y avait une culture différente entre la formation en thèse, qui est plutôt une formation effectivement en profond des choses, on va essayer de comprendre les phénomènes, et donc le fait d'entreprendre, de créer une entreprise. Et j'entends effectivement dans le monde de l'économie, l'essentiel c'est de travailler finalement en équipe et donc de savoir conjuguer des talents différents. Est-ce que nos docteurs doivent vraiment être des entrepreneurs ?
Oui, allez-y.
Oui, il y a un doctorat des sciences de la vie. Maybe a question for our colleague from Leuven. You are en français, si vous voulez. I think it could be in English because those concerns are colleagues from Europe.
Okay.
The question of quality of the pitch is to each we all try to select the best students we can. However, we are all tempted now to recruit from everywhere in the world the best candidates, and we know that we don't know these people before they arrive in the office. And it's also true that our own students, that sometimes will just change their mind during their PhD. So the question is, do we have the tools just to interrupt the PhD at any point?
In Leuven we have. In Leuven, and that's again general for the whole of university, each PhD student is evaluated after 9 months, let's say between 9 months and 12 months after the start of the PhD, by his or her assessment committee, and the committee can decide to say, look, we don't think there is any perspective in this project. This is not working out well, and we propose to stop the project here. Of course, then there is a possibility of appeal, etc., etc., but the possibility is there, and we think it is important. It really helps people to focus and to think about where do I want to go, and to move away from PhDs that last far too long. So, yes, it can be done.
Marie Moukou, de l'Université d'Avignon, du Collège d'études doctorales. J'avais une question aussi pour Gérard Govers, et plus en général par rapport à ce qui a été dit aussi bien hier qu'aujourd'hui. Vous avez évoqué dans votre université la présence d'une école doctorale en Humanities and Social Sciences, et je voulais savoir que les chiffres que vous avez montrés nous donnent des résultats sur l'ensemble des doctorats. Quelle est la part de réussite? Parce qu'il en a été relativement peu question également hier, on a parlé surtout du rapport entre les docteurs et les ingénieurs, ce qui exclut en grande partie donc les humanities. Et je voulais savoir si vous aviez des données et un petit peu une réflexion sur justement l'orientation professionnelle et la capacité d'insertion professionnelle des chercheurs, des docteurs dans les humanities ou social sciences. Je vous remercie.
Ben, moi, je ne suis pas spécialiste dans le domaine parce que je suis des sciences et technologies. Mais de l'autre côté, je peux vous dire que ben, l'étude statistique que j'ai montrée, elle a été faite par un économe, montre quand même, hein, c'est pas là, ben, c'est pas grave, montre quand même que après la finition d'un doctorat en sciences humaines, généralement, ça va assez bien. Donc, il n'y a pas de problème de non-emploi. Leurs salaires sont plus élevés que les salaires moyens des étudiants en master, des mêmes directions. Donc, en moyenne, ça va bien. Mais c'est aussi vrai que, bon, il y a là un certain décalage au sein de notre université, c'est-à-dire que cette transition doctorale s'effectue à des différents pas de temps. Et donc, ça va un peu plus lentement dans les sciences humaines, oui. Et là, la perception de certains doctorants est encore qu'il faut devenir académique, ce qui n'est plus le cas, hein, parce qu'eux aussi, ils finissent, ils ont 150 doctorats par an, et ils ont donc ce n'est qu'une fraction qui va devenir professeur.
Est-ce que quelqu'un peut répondre sur la question entrepreneuriat?
Je vais répondre quelques éléments là-dessus. Je crois qu'il faut, effectivement, je pense qu'il ne faut surtout pas poser la question en disant est-ce qu'un docteur doit être nécessairement entrepreneur. Ce sont deux parcours différents. Dans les deux cas, d'ailleurs, il faut être conscient que ce sont des transformations personnelles. Hein, ce qui compte, ce n'est pas l'entrepreneuriat ni la recherche. Ce qui compte, c'est le chercheur et l'entrepreneur. Ce sont des personnes. Et que à la fois le cursus de docteur et le cursus d'entrepreneur, parce que pour moi, c'est aussi un cursus, sont des cursus dans lesquels on va très profondément se transformer en tant que personne. Ça, c'est la première chose. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont un talent d'entrepreneur et que cet talent, il faut le développer. Et que c'est comme la bicyclette, hein, tout le monde ne gardera pas le tourmalet, mais tout le monde peut progresser, il suffit de s'entraîner, il suffit de travailler. Première remarque. Moi, je crois beaucoup, les aventures entrepreneuriales ne sont jamais des aventures solitaires. Vous voyez, les gens qui ont très très bien réussi dans l'entrepreneuriat, ils étaient toujours au moins deux. En général, d'ailleurs, quand ils sont deux, ils s'engueulent, mais c'est bon, c'est comme ça qu'ils vont prendre des bonnes décisions. Mais ce que je pense, c'est que les docteurs, ou bien ils ont un talent personnel d'entrepreneur, il faut surtout les encourager, parce que notre pays en a fantastiquement besoin. La deuxième chose, c'est que s'ils n'ont pas ce talent, mais si par contre ils ont de bonnes idées, s'ils sont prêts à prendre des risques, il faut surtout les aider à s'associer à des gens qui, eux, sont des entrepreneurs. Et il y a des mariages absolument extraordinaires. On a la chance à Centrale d'opérer un incubateur que j'appelle un incubateur pédagogique. C'est un incubateur dans lequel l'accent va être beaucoup donné sur la formation des entrepreneurs. Et où on voit un docteur et un entrepreneur se marier et faire un super projet. Donc c'est vraiment créer cette interface qui est souvent extrêmement riche et qui permet vraiment de mener des projets. Et enfin, moi je crois beaucoup à ça parce que l'expérience montre que quand on se jette dans un projet de création d'entreprise, alors je parle un peu, excusez-moi madame, pour les disciplines que je connais, la barrière à l'entrée pour les concurrents sur un projet fondé sur de la techno est beaucoup plus haute que sur des projets qui sont fondés sur des services. Et donc c'est très très important, quand il y a un bon thésard, qui a envie de se lancer, qui a une bonne idée,
Autre sujet que cette idée, il pourra disposer de la propriété industrielle, parce que ça c'est aussi une grande question, de l'aider à trouver l'entrepreneur avec lequel il va travailler. Et là on a souvent des trinômes qui sont extrêmement positifs. Donc, je pense que la vraie question c'est ceux qui ont envie du côté de la recherche, de les aider à travailler avec des entrepreneurs qui eux ont envie de développer des projets.
C'est le secret de la réussite des startups.
C'est le secret de la réussite des startups. C'est un très très bon spécialiste de l'idée avec un très très bon manager. Nous, on est fondateur d'un incubateur qui s'appelle Paris Biotech avec l'INSERM, Paris 5 et l'ESSEC. Et on fait que ça. On marie de très bons scientifiques, c'est pas l'expression, avec de très bons managers et ça marche.
Merci.
Oui. Je voulais confirmer ce que je vis, moi, au pont avec les jeunes élèves. Ceux qui ont un goût pour l'entrepreneuriat, ben, ça dépend vraiment dans quel secteur ils se lancent. Dans les services, ça va, on peut y aller tout de suite, faire des applications sur en informatique sur Apple, etc. Il n'y a pas besoin d'un vrai bras grand. Ceux qui sont en train de faire de la mécatronique, il y a peut-être intérêt quand même à ce qu'ils travaillent un petit peu le sujet pour vérifier qu'ils vont être différenciés, encore une fois. Donc c'est difficile de répondre globalement, mais ce que je peux voir, moi, par exemple, sur les gens qui sont branchés informatique aujourd'hui, c'est que 3 ans de thèse, ça leur paraît une immensité de temps. C'est pas possible pour eux. L'échelle de temps est vraiment la plus importante. Et mettez, à chaque fois que vous avez un raisonnement, mettez-le en termes de dynamique de temps.
Monsieur ?
Oui ? Jean-Dominique Polac, directeur de l'Institut de formation doctorale à l'Université de Paris-Marie-Curie. J'aurais voulu revenir sur la sélection des candidats au doctorat, et en particulier sur le mot talent qui vient enfin d'être prononcé. Et je crois que il ne faut peut-être pas penser en termes de talent, parce que le talent, on ne sait le démontrer qu'après, en fin de carrière. Si vous regardez toute la littérature sur les talents, vous verrez que c'est le problème du talent. Donc si l'on veut avoir les meilleurs doctorants, on aura forcément énormément de déchets. Aux États-Unis, c'est d'ordre de 50% sur les doctorats. Donc attention à ce que l'on veut. Je pense qu'il y a la place pour d'autres doctorants, mais pas forcément les meilleurs. C'est très bien, c'est très agréable d'avoir un excellent doctorant, mais il y a aussi besoin d'autres
doctorants. Oui, on peut pas avoir que des gens.
C'est comme ça. Les écoles,
bonjour, je suis de Marseille. Ma remarque, ma question s'adresse à M. Fuchs, qui a eu tout à l'heure une parole qui m'a fait un petit peu peur. Je suis directeur d'une petite école doctorale. Il y a 200 doctorants en langues, lettres et arts. Vous avez dit qu'il faut faire la chasse aux doctorats non financés. J'ai 200 doctorants et 4, environ trentaine ou quarantaine de doctorants qui entrent chaque année. Mon université me donne 2 contrats doctoraux. Je réussis parfois à en trouver quelques-uns. Les ENS ou bien autre chose. Si on fait la chasse au doctorat non financé, demain, nous n'existons pas.
Oui.
Et je crois que je ne suis pas une exception dans les écoles des universités.
Moi, je vais vous répondre. Je n'avais pas l'intention, d'ailleurs, pas personnellement, d'aller faire la chasse spécifiquement au doctorat non financé dans votre école doctorale. Toutefois, Si le thème que je relis ici est faire évoluer la formation doctorale pour préparer l'insertion post-doctorat et la reconnaissance du doctorat, et on en a parlé depuis hier matin, et on va encore en parler aujourd'hui, je ne vois pas d'autre solution, puisqu'il s'agit quand même de considérer qu'on est dans une première expérience professionnelle. Une première expérience professionnelle, eh bien, ça se finance par un contrat, c'est tout. Voilà. Après, je connais bien la situation, je connais bien la réalité. Je dis simplement que voilà, on ne peut pas dire une chose et en faire une autre. C'est tout. Moi, je regrette beaucoup que dans des domaines, d'une manière générale, qui sont ceux des humanités, des sciences sociales, des domaines de création artistique, en effet, bien, on soit extrêmement en retard sur le financement des doctorats. Mais il n'y a pas de fatalité. Enfin, si on se donne pour objectif de financer de plus en plus de doctorats, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver.
Merci. Bonjour, Simon Thierry de la société Adobe Métis. Alors, je regrette tout d'abord que le focus qu'il y a eu sur les compétences des docteurs, et là, dans cette table ronde, est essentiellement été fait sur les compétences de recherche. Ça a été plusieurs fois mentionné hier, ça a été rementionné un petit peu ce matin par David Bogle quand il parlait des principes de Salzbourg, mais je pense que vraiment, il faut rester sur le fait que le doctorat, ça ouvre sur les carrières qui ne sont pas forcément les carrières du chercheur. Jean Chambaz, qui est l'ancien responsable de la CDE, l'actuel président du PMC, disait en 2009 à Nancy pour le colloque de la CPU que le doctorat ne doit pas être considéré comme la première étape d'une carrière de chercheur, mais bien comme une première étape pour celle de recherche qui peut ouvrir sur des milliers de carrières possibles. Et je pense qu'il faut insister là-dessus. Je voulais juste revenir sur des choses qu'avait dit M. Bonnard. Vous avez insisté sur le fait que tous les encadrants ne connaissent pas la réglementation, tous les encadrants n'ont pas lu les principes de Salzbourg et les principes de Bologne. Je pense qu'il y a une autre chose sur laquelle il faut insister. Tous les encadrants ne sont pas à jour de leur veille sur la recherche qui est faite sur l'encadrement. L'encadrement scientifique, c'est une science qui est assez neuve. Ça fait une dizaine d'années qu'il y a de la recherche scientifique sur l'encadrement doctoral. La plupart des directeurs de thèse ont un temps de travail qui est hallucinant et donc ils n'ont pas le temps de faire la bibliographie sur la question. Et donc je pense que là aussi, ça appelle, comme vous le dites, à des formations, des encadrements sous la forme de formations, de séminaires, de workshops, tout est possible. Et pour venir d'une société qui justement propose de telles formations, je peux vous assurer à tous qu'il y a une vraie demande de la part des encadrants et ceux qui y participent en ressortent tous, et y compris ceux qui à la base se sont sentis forcés d'y aller, ils en ressortent tous extrêmement, extrêmement satisfaits d'avoir les outils qui viennent de ces pays scientifiques. Et dernière chose, je regrette aussi qu'on n'ait pas beaucoup parlé dans une table ronde qui s'intitule « Orientation vers le doctorat et recrutement des doctorants » du recrutement des doctorants. On a surtout parlé du recrutement des docteurs, à une fois qu'ils sont docteurs. Ça a été mentionné un peu par M. Gauvas qui parlait de l'importance d'un recrutement ouvert des doctorants. J'avais là encore envie d'insister sur un autre facteur qui me semble important, c'est que les encadrants qui sont généralement ceux qui réalisent le recrutement des doctorants ou la sélection des doctorants selon comment on l'écrit, là encore, ne sont pas forcément équipés en termes d'outils pour lutter contre les biais cognitifs de recrutement, pour être capable d'évaluer la motivation d'un doctorant, qui est un élément déterminant, pour être capable d'évaluer la rigueur des pensées d'un doctorant. Et là encore, je pense qu'il y aurait du travail de recherche et du travail de pratique à faire sur ces thématiques. Merci.
Je tombe d'accord avec la plupart des remarques, hein, mais je dirais quand même que pour démarrer un doctorat, il faut avoir une certaine affinité avec la recherche. Hein. Donc, si cette personne va terminer dans une autre branche de la société après, oui, mais il faut quand même qu'il ait une certaine intérêt pour la recherche. Donc là, je suis tout à fait d'accord, et je suis aussi d'accord que la formation de nos encadrants est très importante et c'est quelque chose à poursuivre dans les années qui viennent. Il y avait aussi une remarque sur la qualité des doctorants qui me paraît intéressant. Disons que avec les meilleurs, on a un certain risque, c'est vrai, mais bon, on a quand même dit que la recherche, c'est plein de risques. Donc il faut en prendre de temps en temps. Ceci étant dit, c'est clair aussi qu'il y a de différents projets de doctorants. Il y en a qui sont totalement libres, donc au FNRS peut-être, mais ici en France, mais de toute façon au Fonds national en Belgique, tu peux lancer un projet sur n'importe quoi et si tu reçois les fonds, tu peux le faire. Donc là, tu es tout à fait libre et tu peux prendre les risques que tu veux. Il y a des autres projets en collaboration avec l'industrie où quand même les risques doivent être un peu limités, je pense.
Et moi, je voudrais commenter sur... il est évident qu'on a parlé d'insertion des docteurs et du côté de la recherche, parce que c'est la voie la plus classique. Évidemment, il y a plein de jeunes qui arrivent à trouver de l'emploi simplement par leur titre, leur capacité, etc. Mais attention à la casse, quand même. Là, on a une vraie responsabilité collective. Moi, par exemple, je donne des cours également à Villetaneuse en même temps qu'à l'école des Ponts et Chaussées. Pas du tout la même sociologie de personne. Soyons secs, les gens des ponts, s'ils font une thèse, et ben de toute façon, ils ont un super parachute de dorsale et ventrale. Il n'y a pas de problème. Ils ont déjà été sélectionnés. Leur insertion, alors sauf s'ils font des grosses bêtises, est relativement facile. Les mômes, là, du 9-3, Ils n'ont pas de règles sociologiques, enfin, ils ne connaissent pas les règles des RH, etc. Il faut vraiment les aider. Eux, leur faire faire un doctorat, ça peut être super, super dangereux. Ça peut être vraiment dangereux. Donc, attention, ouais, faut pas, enfin, tous les doctorats ne se valent pas, et toute leur histoire individuelle ne se valent pas, au vu... Alors, attention, moi, je ne défends pas ce truc-là. Hein. Je dis, c'est comme ça que les RH dans les boîtes vont les voir. Alors attention. Mais oui, mais là, on a une responsabilité. On sait bien que les règles du jeu sont vraiment méchantes.
Moi, je voudrais juste commenter, parce qu'il y a quand même une présentation de Paulette de Louvain, un chiffre qui doit nous faire tous réfléchir. Si j'ai bien compris, chers collègues, vous délivrez 650 doctorats par an avec 5000 candidats. Et la question que vous posez, monsieur, elle prend un tout autre relief quand il s'agit de sélectionner les bons candidats. Effectivement, je suis d'accord avec vous. On a probablement à progresser sur à aider en particulier nos HDR et nos directeurs de thèse dans ce processus. Mais comme on a, donc en moyenne, si j'ai bien compris, 7 candidats par sujet, c'est quand même une situation qui, moi, me fait réfléchir. Je crois que l'information de moi, je prends le.
Oui, 5000 doctorants.
Ah, excusez-moi. Erreur de ma part, mais c'est quand même, donc si je compte bien, ça fait quand même un 3 pour 1. Bon, cela dit, excusez-moi, j'ai commis une erreur. Donc, merci, parce que comme ça m'évitera de partir avec une idée fausse. Mais je pense que ce problème de sélection des candidats, il est d'autant plus important qu'on a plusieurs candidats moi, je crois qu'il y a quand même beaucoup de situations où on n'a pas pléthore de candidats sur des sujets, et c'est ce qui pousse beaucoup de nos institutions à aller chercher des candidats à l'international.
Oui, monsieur.
Je suis directeur adjoint du club doctoral de l'Université Technologique de Troyes. J'ai une petite réflexion, une question. On a parlé dans l'ensemble des exposés sur l'attractivité. Ça vient d'être évoqué dans la dernière intervention, c'est comment avoir un vivier, comment augmenter le vivier de doctorants dans lequel on va vivier, on va chercher des doctorants. Je pense que la question est beaucoup moins comment nous, universitaires et responsables des formations doctorales, on peut recruter. Je pense que cette question-là, pour moi, c'est un deuxième volet. Le premier volet, c'est attendre. Étant attractif au sens législatif du terme, quand on dotera ce pays d'un véritable statut de doctorant, pour que les doctorants aient une vision claire, une vision claire de l'intérêt de faire un doctorat, de faire une thèse. Et pour cela, il faut être attractif. On a le collègue d'Aix-Marseille dans une discipline qui effectivement dit le problème que les gens ne sont pas payés. Dans les centres de l'ingénieur aussi, il y a des gens qui ne sont pas payés, mais c'est beaucoup moins. Mais comment être attractif et comment doter le doctorat d'un véritable statut qui lui garantit un déroulement de carrière qui commence au niveau du doctorat. Je reviens sur quelque chose d'autre que, et c'est ma remarque, je pense que ça a été évoqué par notre collègue de Louvain, sur le fait que les encadrants eux-mêmes ne sont pas. Ça semble un peu. Bien, tout le monde le sait, mais ça semble un peu être évoqué comme un étonnement. Je pense que tout comme on a des grands scientifiques qui sont très mauvais pédagogues, qui n'arrivent pas à enseigner et transmettre, à savoir, on a aussi des scientifiques qui ne sont pas encadrés. Et donc, autant on a des écoles, des filières qui forment à la pédagogie pour transfert et des connaissances et transmission de connaissances, on devrait peut-être penser, et ça a été souligné, à des mécanismes qui permettent d'enseigner à des jeunes enseignants-chercheurs comment encadrer. Et encadrer, ce n'est pas uniquement de la science, c'est aider le jeune à se former. À former sa personnalité, sa carrière, dans tous les aspects
Sur le premier point, je voudrais faire un commentaire. Je ne sais pas ce qu'il faut faire en France, mais moi je suis assez inquiet de ce qui est en train de. Ce que je sens arriver des grandes universités américaines et anglo-saxonnes en général, c'est la notion de marque. À savoir la marque Stanford, la marque Berkeley, la marque Columbia, qui est pas la marque du PhD, c'est global. Je ne sais pas dans comment les universités françaises veulent ou souhaitent réagir à ça, mais alors attention, encore une fois, du côté des recruteurs, du côté des réseaux de recherche qui se mettent en place, cette notion de marque est facile à lire. Je ne dis pas qu'elle est bonne, mais je dis qu'elle n'est pas en notre faveur quand on est en France.
Une question, donc, Patricia Bancard, CFDT CAR, et je suis membre du CRESER et de administrateur APEC pour l'insertion. On a effectivement, on peut parler dans le recrutement des doctorants de l'interrogation qu'il peut y avoir du discours sur le parcours professionnel, puisque effectivement, c'est pas du tout un critère de sélection, enfin, il me semble, et pourtant c'est un élément qui est important, puisque selon le type de thèse, on sait que les parcours ne sont pas que académiques. Et au moment où il y a des postulants pour être doctorant, on parle vraiment très très peu de parcours professionnel et de la motivation qu'ils peuvent avoir. Donc ça, il me semble que c'est important. D'autre part, le CIFRE a beaucoup été évoqué. Effectivement, c'est un moyen d'insertion qui est très intéressant. Cela dit, le nombre de CIFRE n'est pas vraiment en augmentation. Pour nous, il nous semble que c'est important effectivement que les thèses soient financées et il me semble qu'il faudrait aussi que les entreprises ne recrutent pas uniquement des chiffres du côté scientifique, mais qu'il puisse y avoir différentes sortes de chiffres et il y en a nettement moins dans les domaines effectivement ou artistiques ou même sciences humaines. Et je pense que ça pourrait être un plus, notamment, on voit le lien avec la société.
Voilà. Je vais me tenter également. Alors, je suis malheureusement plus administrateur de la NRT, je me retrouve vers Daniel Rondet. Je crois que la NRT a fait beaucoup d'efforts dans le domaine pour aller, un, vers les PME, et deux, vers des formations de scientifiques. On va donner, tu peux peut-être en dire un mot. Et deuxièmement, je crois que les directeurs d'école doctorale qui sont membres dans cette salle, enfin, maintenant, dans la transition, je crois que la plupart des HDR, des gens qui vont piloter les thèses, ont dès le départ le souci du devenir professionnel de leur candidat. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Donc ça, c'est une transition qui, à mon avis, est en train de se faire. Enfin, au moins dans les domaines que je connais, je ne vois pas la situation où on recrute un doctorant sans se poser au moins au départ la question de son devenir professionnel. Hein. Je crois que là, je pense ne pas me tromper.
Oui, Denis, bien sûr. Oui.
Sur les faits, les chiffres, depuis 10 ans, ça a doublé. Le budget est en augmentation, c'est pas encore assez. Il n'y a aucun contingentement, ni par discipline, ni rien. C'est simplement le mouvement, on peut dire, naturel, j'ai donc autant que possible. Je prends l'exemple de la santé, où il y avait, par rapport aux dépenses de recherche du secteur, vraiment peu de chiffres. Bon, ça a presque doublé en 2 ans. Oui, nous sommes toujours dans le sens de souhaiter davantage. Il y a quand même 15% de chiffres qui sont dans le secteur SHS et nous souhaiterions qu'il y en ait encore davantage.
C'est le côté entreprise, hein.
C'est le mouvement naturel qu'il faut encourager.
Tout à fait.
Alors, une dernière question. Alors, dernière question.
Bonjour, Benoît, d'interagir de l'ESCN à des nouvelles. En fait, je me posais la question suivante, c'est comment convaincre les jeunes étudiants de grandes écoles de faire des thèses, sachant que très souvent, la réaction quand on est là en stage, c'est de dire, je vais dévaloriser mon diplôme. Beaucoup le disent. Ah, donc, comment lutter contre... Et plus l'école est soi-disant cotée, plus ils ont tendance à faire ce genre de commentaires et on a un peu de mal à leur répondre.
Alors, je vais faire un commentaire parce que on s'était rendu compte dans les études que nous avions faites avec la NRT qu'en fait on avait la tendance inverse. Je ne parle pas des écoles normales, en particulier une que je connais un peu puisque je suis administrateur qui est l'école normale supérieure de Cachon. Je crois que c'est plus de. Je tombe aussi du pommier, mais je crois qu'il y a plus de 75, pratiquement 80% des normaliens font une thèse à Cachon. 80%. Bon, on sort de ce point,
Mais l'expérience montrait plutôt que plus l'école était entre guillemets prestigieuse, et plus la proportion d'élèves qui faisaient une thèse augmentait. Ça, c'est une chose qui est à peu près établie. Une des raisons, et probablement celle qui a été donnée tout à l'heure, c'est que ce sont des élèves qui ont un passeport pour l'emploi qui est déjà existant et qui ont souvent la motivation que je disais tout à l'heure d'avoir envie, et c'est normal quand on a une vingtaine d'années, d'aller vraiment au bout d'un sujet et de voir ce qu'ils peuvent donner après des études scientifiques difficiles. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense que cette tendance, contrairement à croire que le doctorat va dévaloriser le diplôme, enfin, moi je crois que ça dénue dans la transition qu'on est en train de vivre. Je crois que c'est quelque chose qui s'est beaucoup raconté. Et là, on est aidé par les entreprises qui ne le disent plus, enfin, du moins les grandes entreprises techniques, qui nous aident beaucoup parce qu'elles portent un message qui est très différent. Donc là encore, il y a à mon avis une transition qui est en train de se faire et le discours, à mon avis, est en train de changer.
L'expérience que j'ai vue, moi, à l'école des ponts, c'est la suivante. Les élèves sont extrêmement sélectionnés, et il y en a qui n'ont plus envie de faire de maths, de sciences, etc., mais vraiment partir dans le management. Ceux-là, pas de problème, c'est un choix personnel. Et il y en a beaucoup d'autres qui se disent, bah, pourquoi pas aller faire un peu plus. C'est ceux-là qu'il faut motiver en leur disant, mais le doctorat, c'est vraiment autre chose. C'est un autre type de métier. Par exemple, pour rentrer dans la carrière expert, dont je vous disais tout le bien que je pense tout à l'heure, c'est un passeport absolument nécessaire. Donc il n'y a plus beaucoup d'élèves qui pensent que ça dévalorise. Ceux qui pensent ça, c'est parce que leurs parents leur disent, et là, il faut se battre un peu contre, et ça, c'est pas trop difficile quand on est dans un encadrement. Et puis, faut les pousser doucement à faire des tests en année de césure, par exemple, dans un laboratoire extérieur. Enfin, faut s'ouvrir, et ça marche, je veux dire, tranquillement. Il n'y a pas de souci.
Quand on fait une analyse des paradigmes implicites des élèves, en fait, dans les écoles que je connais, on se rend compte qu'on a deux grandes classes de population. C'est peut-être lié à la façon dont ces élèves sont sélectionnés sur le concours. En fait, vous avez. C'est grosso modo 50-50. C'est toujours à peu près la même chose. Quand vous analysez les motivations, vous avez grosso modo une moitié qui dit je suis là pour apprendre, et une moitié qui dit je suis là pour me préparer à réussir dans la vie. Et on ne propose pas la même chose à des gens qui ont ces aspirations implicites. Mais le message encourageant pour le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'il y en a quand même au moins la moitié qui dit « Mais moi, je suis là pour apprendre, et le fait de progresser là-dedans m'intéresse. » Et là, la réponse, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut absolument proposer à ces élèves très tôt quelque chose qui leur fait découvrir le métier de la recherche. Et plus on le fait tôt, plus on a une chance que ça leur plaise et qu'ils y restent. Moi, je pense que ces stratégies-là me paraissent très importantes. C'est ce que vous disiez, chers collègues. Un prof, c'est important d'identifier très tôt la vocation et de l'encourager. Moi, je crois que c'est une clé importante.
Et dans la partie scientifique, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est encore une fois attention à l'appel des universités, des grandes universités étrangères. C'est-à-dire que Stanford, Berkeley, Columbia, Cambridge, Oxford nous ramassent les 1% ou 2% de nos meilleurs élèves. C'est quand même ahurissant.
On aurait sans doute encore un autre débat à mener sur la circulation des cerveaux et des idées. Je pense que, par ailleurs, je ne pense pas qu'on soit en train ici de dire que je suis absolument obligé tout le monde de faire une thèse. Faire une thèse, ça reste une aventure individuelle. Je pense que en conclusion, on pourrait simplement dire que, au fond, cette transition que nous vivons aujourd'hui, elle a quelque chose d'absolument passionnant pour l'avenir, parce qu'il s'agit effectivement de concilier deux choses qui sont, en fait, on voit bien, parfaitement conciliables, mais ça demande des efforts. C'est d'avoir en même temps un doctorat qui est un approfondissement et un accomplissement d'un cursus par la recherche. Ça doit le rester, avec le caractère d'aventure qui est la thèse, d'aventure personnelle, d'aventure scientifique, d'aventure intellectuelle, et puis de faire en sorte que ce soit aussi à la fois une des premières expériences professionnelles. Bon, voilà. On est en train de réussir ça. Je crois que c'est ça qu'il faut se dire. On est en train de réussir. Il ne faut pas lâcher le morceau. Merci beaucoup.
Merci.